Bonjour, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'avoir deux invités de marque. Viorica Cortez, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Vous êtes donc, comment on dit, présidente, invitée d'honneur des rencontres musicales internationales Georges Enesco, mais ce n'est pas votre unique fonction dans ce cadre.
Non, moi je suis artiste lyrique international.
Mais ça, je sais, mais on va en parler.
Pour ceux qui ne savent pas. Et en ce qui me concerne, c'est mon rôle d'être présidente de la société musicale Georges Enesco, la société musicale franco-roumaine Georges Enesco, sur toute la France, depuis pas mal d'années. Et à part ça, depuis 4-5 ans, on a décidé, moi et Alina Pavalach, qui est le factotum de la directrice, pour être plus correcte, la directrice de notre festival et de notre concours, on a décidé de initier ce concours qui est tellement important, étant donné la grande personnalité de notre titan roumain qui est Georges Enesco.
On va en parler, Viorica Cortez, vous me vexez en disant que vous êtes artiste lyrique. Pour moi, vous êtes une icône et on vous connaît en France depuis, je crois, enfin, bon, on ne va pas parler forcément de date, mais depuis un certain nombre d'années, votre victoire à Toulouse qui vous a ouvert les portes des opéras français puis à l'étranger. Et j'ai le plaisir de recevoir donc à vos côtés Madame Alina Pavalach, qui, alors vous êtes la directrice artistique de ces rencontres musicales internationales. Georges Enesco, bonjour.
Bonjour, c'est un plaisir de vous rencontrer. Effectivement, comme disait Madame Cortez, nous avons initié réinitier, je pourrais dire, le concours international de chant Georges Enesco, parce que pendant plusieurs éditions a eu lieu à Bucarest. Depuis 2002, à Bucarest est resté juste le concours de piano, violon, violoncelle et composition. Et l'occasion s'est présentée en 2014. Les conditions étaient financières et matérielles étaient réunies pour relancer ce concours de chant portant le nom du grand Georges Enesco, à qui la France est la deuxième patrie. On sait qu'il est autant roumain que français. Il est né en Roumanie et il est décédé à Paris où il est enterré.
Alors Georges Enesco, Viorica Cortez, quand je regardais un peu les innombrables opéras que vous avez interprétés, bien sûr votre nom est lié à Carmen, Samson et Dalila, mais des multiples d'autres opéras, est-ce que vous avez interprété Oedipe justement d'Enesco?
Non. Curieusement non, parce que moi je suis partie de Bucarest, de la Roumanie, je suis partie il y a presque 50 ans, je suis française et j'habite Paris et j'ai fait le tour du monde plusieurs fois, mais à cette époque-là, l'opéra Oedipe, on le donnait seulement pendant le festival Georges Enesco à Bucarest et moi j'ai été à l'étranger, donc je n'ai pas eu l'occasion. Mais par contre, j'ai gagné le Grand Prix Georges Enesco quand j'étais jeune à Bucarest, et avec la médaille d'or. Et bien entendu que ça m'a conditionné pour toute la vie, tant que j'aurai du souffle, de le servir partout et avec tous mes moyens.
Alors le servir, donc on parlait d'Oedipe, il y a des mélodies d'Enesco que vous avez pu chanter?
Il y a plein de mélodies. D'abord, il y a les mélodies d'après Clément Marot, que tout le monde le connaît, et avec l'ancien français, vous savez. Et après, il y a pas mal de leaders, de mélodies qui sont écrites en allemand sur les vers de notre reine de la Roumanie de l'époque, qui s'appelait Carmen Silva, le nom d'artiste, de poétesse.
Alors vous, Alina Pavalach, alors c'est, quand on voit ces rencontres musicales internationales Georges Enesco qui se tiennent du 9 au 19 octobre prochain, il y a une richesse de programmes. Bon, il y a ce concours de chant, on va en parler. Il y a des programmes incroyables. J'ai pu m'entretenir avec Mara Dobresco qui jouera le 18 octobre aux côtés d'autres magnifiques musiciens, notamment une œuvre concertante de Dino Lipati qu'on ne connaît pas, pour deux pianos et orchestre à cordes. Et puis il y a des œuvres d'Enesco, il y aura un octuor, il y aura des œuvres, des créations aussi de compositeurs belges, français et beaucoup d'autres choses. Ce concours, comment sont sélectionnés les artistes qui viennent concourir?
Pour l'instant, nous ne faisons pas de sélection. Il y a, là, l'originalité du concours qu'on a initié est le fait qu'il y a une section grands amateurs d'art vocal et une section professionnelle que, pour l'instant, nous avons ouvert aux chanteurs jusqu'à 37 ans parce qu'aujourd'hui, on est de plus en plus tard jeune et nous avons pensé qu'être jeune, ça ne signifie pas forcément être seulement en dessous de 30 ans.
Et donc, il y aura ce concours. Il y a aussi une exposition de photographie documentaire et de photographie artistique. Photographie documentaire, c'est sur Dinu Lipati ou ça n'a rien à voir?
Il y aura deux expositions photodocumentaires qui sont prêtées par le Musée national Georges Enesco. Une exposition sur Dinu Lipati et Georges Enesco. Et la deuxième sur Dinu Lipati et Corneliu Gheorghiu, grand pianiste roumain qui vit toujours à 94 ans à Bruxelles, qui enseigne toujours. Et qui a été collègue de classe à Bucarest avec Dinu Lipati.
Vous, Viorica Cortez, on vous connaît comme chanteuse d'opéra, puis encore une fois, vous êtes pour moi une figure mythique. Quand on voit tous les chefs avec lesquels vous avez travaillé, enfin, je parle de Solti, Georges Prêtre, bien d'autres, mais il y a un nombre de grandes figures incroyables.
Georges Prêtre et Zubin Mehta et beaucoup d'autres, et surtout les grands artistes de l'époque, je n'ai pas pardonné à un ténor, je les ai eus tous.
Et alors, oui, on ne sait pas par où commencer parce qu'il y a tellement de choses. Mais on est frappé quand même quand on voit les noms des chefs d'orchestre avec lesquels vous avez travaillé, de voir que des grands chefs comme Solti ou d'autres, qui étaient des grands chefs symphoniques et tout, se donnaient à l'opéra énormément. Il n'y avait pas, aujourd'hui il y a aussi des grands chefs qui dirigent l'opéra, mais il n'y a pas d'autant de grandes figures qu'à cette époque.
Non, à l'époque tout était grand. Excusez-moi, je ne fais pas partie des artistes qui disent « Ah, de mon temps, c'était formidable ». Non, ce n'est pas vrai. Mais en ce qui concerne les grandes personnalités, dans tous les domaines, il faut que je dise, hein, cherchez un peu, il n'y a pas toujours les grands messieurs, les grandes dames de l'époque qu'on connaît. Moi, j'ai eu la grande chance de chanter tout de suite après cette comète d'or, que c'était la Callas, et c'était notre génération. J'ai chanté avec Franco Corelli, j'ai chanté avec Giuseppe Di Stefano, avec Pavarotti, avec Carreras, avec Krauss, avec tous ces grands messieurs et encore plein. Et les dames, là, Montserrat Caballé et Birgit Nilsson et d'autres. J'ai eu cette chance. On était tous comme une grande famille des grands artistes.
Et alors, moi, en regardant aussi votre biographie, regardez, vous avez chanté dans une œuvre de Nino Rota, Candide, le chapeau de paille d'Italie en France. Je ne vais pas dire le titre en italien parce que bon, je vais le massacrer.
Capello di paglia di Firenze.
Vous avez travaillé avec Nino Rota à ce moment-là?
Oui, c'était un homme charmant. Charmant. Parce qu'on a fait d'abord l'enregistrement, comme on fait pour les films, l'enregistrement de point de vue musical, et après on a fait le film en playback, bien entendu. Et il a dirigé l'orchestre. C'est extraordinaire. C'est dommage qu'on ne le voit nulle part. Ça, c'était fait pour la télévision, plus jamais vu.
Vraiment, c'est un appel, j'espère qu'on va le voir, parce que c'est...
Les artistes, avec, vraiment, et c'est Nino Rota, c'est sa musique, c'est une merveille, et le trame, c'est de
la biche.
De la biche, ça devrait le reprendre quelqu'un.
Et alors, vous, justement, il y a ces rôles iconiques comme Dalila, dans Samson et Dalila, Carmen, vous, vous avez... incarner ces rôles du fait de ces concours que vous avez emportés. On parlait de Georges Enesco enfin, à Bucarest et puis après à Toulouse. Donc ça vous a mené vers ces rôles. Mais vous, est-ce que c'est ces rôles vers lesquels vous étiez prédestiné?
Non, je vais vous dire que pour parler, il faut parler 2 heures. Mais,
mais on est là pour ça.
Et je vais essayer de faire le plus court possible. Après mes études du conservatoire, j'ai fait l'Académie de musique. Et après, en gagnant le prix de Toulouse, je ne voulais pas, je faisais le concert seulement. J'étais soliste de philharmonie. Je ne voulais pas faire parce que j'avais ma petite Catalina qui était à peine née et je ne voulais pas partir de la maison. Ce concours, c'était le rampe de lancement pour l'opéra. Et j'ai été préparée pour l'opéra, mais je n'aimais pas partir de la maison. Et bien entendu, que de Toulouse, je me suis trouvée tout de suite à Covent Garden, à Vienne, à Staatsoper de Vienne, à Covent Garden de Londres, à l'Opéra de Paris, et après tout de suite Metropolitan Opera. Toutes les portes sont ouvertes. Mais la vérité, c'est que j'ai été préparée vraiment. J'ai eu aussi une autre chance d'avoir des professeurs extraordinaires qui m'ont permis d'être prête pour ça.
Alors pour quelqu'un qui ne voulait pas voyager, qui voulait rester avec sa fille, vous n'avez pas été servi?
Mais oui, mais voilà qu'après, je me suis arrangée. Et c'est tant elle que moi, on a souffert parce que je vivais à l'époque à Bucarest. Et là-bas, du temps de Ceausescu, c'était la période noire où quand je sortais, si je n'entrais pas donner tout de suite le passeport, je n'avais plus le droit de sortir. Et quand je suis sortie un jour, j'ai dit, il faut que je fasse la carrière. Donc, ma petite Catalina, qui était déjà, avait 10 ans, elle a resté comme une sorte d'otage en Roumanie. Je ne l'ai pas vue pendant 6 ans. Et ça, c'était le drame de notre vie parce que je l'ai élevée au téléphone. On a payé très cher.
Et alors donc, il a fallu que... Enfin, bon, je m'égare un peu, mais je tourne autour de ces sujets que vous évoquez, Viorica Cortés. Vous êtes revenue en Roumanie finalement qu'au seuil des années 90?
Non, je venais en Roumanie parce que j'étais française, donc ils ne pouvaient rien, ils me saluaient comme ça, mais je n'avais pas le droit de chanter. J'étais sur la liste noire de Madame Ceausescu et je n'avais pas le droit, je pouvais venir, ils ne pouvaient rien me faire. J'étais mariée en plus avec M. Emmanuel Bondeville, qui était une grande personnalité de France. Donc, il était secrétaire perpétuel de l'Académie des Beaux-Arts, c'était une grande personnalité. Donc, je pouvais aller en France, en Roumanie quand je voulais, mais je n'ai pas eu le droit d'ouvrir la bouche pour chanter.
Vous vous êtes rattrapée à l'étranger, encore une fois, il suffit de voir votre discographie et puis toutes ces œuvres que vous avez interprétées. Je reviens vers vous, Madame Alina Pavalage, puisque vous êtes la directrice artistique de ces rencontres musicales internationales Georges Enescu, qui se tiennent du 9 au 19 octobre prochain, notamment dans la salle Colonne à Paris, dans le 13e arrondissement. Alors, il y a le 4e concours international de chant Georges Enescu, et puis le 16 octobre il y a un concert vocal Georges Enescu, ses contemporains et ses successeurs, et puis vous allez jouer du piano lors de ce concert.
Oui, j'ai le plaisir d'accompagner au piano les lauréats de l'édition 2016 que nous invitons dans le concert d'ouverture de l'année prochaine. Ça fait partie de leur prix. Et aux côtés de Viorica Cortés et de Leontina Vadova. Et cette année, nous avons invité une ténor d'origine roumaine aussi, qui fait une brillante carrière, notamment en Allemagne.
Et alors, au niveau des œuvres qui sont sélectionnées pour ce concours, les interprètes, les artistes qui vont concourir, ils ont le choix des œuvres ou leur imposer des programmes?
Nous avons au concours 3 grands prix, un grand prix opéra, un grand prix Georges Enescu et un grand prix musique contemporaine. Parce que nous avons souhaité créer un concours un tout petit peu différent de Francesco Vignas, du concours d'Herzog & Bosch, les grands concours européens mondiaux. Dans lequel un rôle privilégié a la musique des 20e et 21e siècles, et aussi les compositeurs vivants.
Et alors, c'est vous qui avez conçu aussi le programme des rencontres musicales, avec ce programme si riche, des créations, des œuvres d'Enescu, de Dino Lipati?
Oui, majoritairement oui, c'est des souhaits qui se font d'une année à l'autre. Et j'ai eu la chance pour cette 4e édition de rencontrer les merveilleux interprètes qui ont proposé aussi, par exemple, l'octure d'Enescu, dont la participation de Luc Ferry dans le récital musical littéraire avec Clara Tchernat et Thierry Huyer. C'est des programmes originaux, je pense, et qui peuvent apporter au public une richesse supplémentaire.
Viorica Cortés, on revient à votre... Enfin, le mot est toujours un peu barbare, mais à votre carrière, mais c'est difficile de trouver un autre mot. On parlait de personnages comme Carmen, que vous avez interprété des centaines de fois.
Si vous saviez, tout le monde croit que c'est le rôle de ma vie, et c'est vrai que à peine gagné le prix de Toulouse, j'ai débuté à la Scala avec Carmen. à la Covent Garden de Londres avec Carmen, à l'Opéra de Paris avec Carmen, à Vienne avec Carmen, au Metropolitan avec Carmen, mais ce n'était pas mon choix. C'était que tout le monde, j'étais superbement belle et la voix était faite pour, c'était la préparation et tout. Et j'ai fait honneur à Mérimée et à Bizet.
Alors justement, honneur à Mérimée et Bizet. Moi, Carmen, c'est un opéra pour lequel j'ai beaucoup, c'est pas très original, une grande passion. C'est un personnage que je n'ai toujours pas compris, Carmen. C'est-à-dire, je ne sais pas sous quel angle on l'aborde, cette femme.
C'est très difficile. Vous êtes quand même... J'aimerais bien vous donner plus d'interviews avec vous.
Avec plaisir.
Oui, parce que vous touchez des points que d'autres ne touchent pas. Carmen, elle est mal comprise. Et il est considéré comme une femme légère, comme une assez vulgaire. Et c'est loin d'être vulgaire, parce que si les gens pensent un peu qu'elle est gitane, qu'elle est espagnole, tant les gitans que les espagnols, les femmes sont fières, ne se donnent pas à première venue, ça n'existe pas. Donc, si tu réussis à comprendre quand tu interprètes Carmen que c'est une femme extraordinaire, femme avec le F grand, sans être vulgaire. Ça, c'est la difficulté pour certains interprètes.
Alors, vous êtes retrouvé à interpréter ce rôle avec des chefs très différents, des metteurs en scène très différents. Et pour vous, est-ce qu'il y en a qui correspondaient plus à votre vision?
Oui, il y a Pierluigi Pizzi, il y a Streller.
Oui, carrément Streller.
Oui. Et lui et d'autres, plein. C'était notre époque était très riche d'interprètes et de metteurs en scène et de chefs d'orchestre. Et bien sûr que Carmen, c'est une femme fatale. C'est par exemple, quand j'avais la légèreté, la facilité de chanter Rossini. Et quand j'ai demandé, mais pourquoi vous ne me donnez pas chanter Rossini? Alors, les éminences grises d'Italie et d'ailleurs ont dit dans la musique, ils ont répondu, mais pour le Rossini, on a plein. Mais pour les femmes fatales et les femmes formidables, c'est ce qu'on a besoin. Et vous les incarnez merveilleusement. Ben, sans fausse modestie, j'ai fait ce que vous ont demandé.
Dans une interview de vous que j'ai lue aussi, je crois que vous disiez que les ténors étaient trop petits ou je sais pas, ça allait pas pour aussi.
Ah oui, ça c'est Maestro Siciliani d'Italie qui était vraiment l'éminence grise de la musique en Italie. Et j'ai dit mais Maestro, s'il vous plaît, je dis j'aime chanter. C'est vrai que j'ai chanté quand même Tancred, mais j'étais homme. En tant que et alors j'ai dit pourquoi non? Il a dit d'abord que j'ai pas de ténor pour toi parce que j'étais grande et mince pour toi, ton petit, et deuxièmement j'ai besoin des femmes, vraiment des femmes fatales pour ces rôles.
Alors on vous retrouvera le 16 octobre prochain lors de ce concert vocal, puis on a indiqué la participation exceptionnelle de Leontina Vadova et Viorica Cortés, c'est-à-dire vous serez une sorte d'éminence grise.
Oui, c'est une joie d'être entourée de tous ces jeunes parce que après moi vient une autre série, on découvre que l'art lyrique ne mourra jamais et le fait que chaque année on a d'autres on découvre d'autres éléments qui sont extraordinaires, ça fait chaud au cœur et je suis ravie d'être à côté de Leontina Vadova qui est une grande artiste roumaino-française parce qu'elle est française comme moi depuis pas mal d'années. Et ce que je voulais vous pour ne pas oublier, je voulais vous dire que la 2018-2019, c'est l'année franco-roumaine. Et avec cette occasion, moi et Alina Pavalaș, on prépare pas mal de projets, on a pas mal de projets pour ce grand événement.
Qu'est-ce que ça va être parce que Alina... Non, mais justement, qu'est-ce que ça va être parce que Alina Pavalaš, quand on voit déjà cette programmation du 9 au 19 octobre, c'est gigantesque d'organiser. Il y a le concours, il y a l'exposition, il y a ces concerts. C'est énorme tout ce que vous avez organisé.
Oui, c'est un grand travail de conception et puis après de suivi et puis de réalisation parce que bon, j'ai une équipe assez réduite. Mais comme c'est passionnant et puis la rencontre avec mes collègues artistes, avec les membres du jury et la jeunesse, ça donne de l'énergie.
Je me suis entretenu avec Mara Dobresco du concerto de l'œuvre concertante d'Inno Lipati qui sera donnée. On a comme ça en France une vision de certains artistes roumains, Clara Askill, d'Inno Lipati, plus proche de nous, Radu Lupu, vous, Viorica Cortez. C'est étonnant quand même cet impact de ces artistes roumains et cette force. C'était dû à une école particulière, je ne sais pas qui.
Et c'est reconnu depuis pas mal de temps. Vraiment, en arrière, quand on pense, tous les grands prix, quand les Roumains venaient, ce premier prix, deuxième et troisième étaient partis. Hein, parce que ça vient du fait que l'école roumaine de chant, c'est une école extraordinaire. C'est peut-être les gens me demandent pourquoi. Et j'ai réfléchi, je me suis dit, peut-être qu'en étant les Roumains étant une île entre les Slaves, peut-être que la langue roumaine, qui est latine, qui fait partie des pays latins, nous aide à capter plus facilement tous les styles. D'ailleurs, tous les Roumains parlent plusieurs langues. Ça, c'est connu. Mais c'est ça le fait que, avec cette occasion, tous les grands prix sont pris par les Roumains. Je regrette, c'est comme ça. Pensez à Gheorghiu, pensez à Parmoi et d'autres. Il y a plein le monde de jeunes hommes et femmes, des jeunes chanteurs roumains qui ont fait une grande carrière.
On pense aux chanteurs, on pense aux pianistes.
Aux pianistes, aux violonistes, bien sûr.
Et alors vous, Alina Pavalage, quand vous choisissez des œuvres d'Enesco ou d'autres, il y a un but, parce que Enesco en France, bon, il est très connu, et puis il est lié à Yehudi Menuhin, enfin il y a des choses comme ça. Mais en même temps, au niveau du répertoire, on joue toujours la troisième sonate pour violon et piano. La deuxième, qui est très belle aussi, on la joue moins. Et même les œuvres pour piano, Mara Dobresco vient d'en enregistrer. Ce n'est pas un répertoire qu'on connaît, même Oedipe, c'est très peu donné.
C'est exact. L'objectif principal quand nous avons fondé ce festival, c'est de faire connaître les œuvres de Georges Enesco moins connues. C'est le cas de l'Octuor, c'est le cas de l'œuvre vocale, pas seulement les chansons sur parole de Clément Marot qui sont plus connues. Et un des objectifs, ça serait effectivement de faire monter sur la scène de l'Opéra de Paris Oedipe qui n'a pas été donné depuis 1936. Comme cette année, j'ai réussi à programmer la symphonie concertante de Lipati qui a été donnée une seule fois en 1939, j'ai espoir qu'un jour la direction de l'Opéra de Paris remettra en scène ce magnifique opéra que je viens de réentendre en concert à Bucarest, que j'ai vu à Londres l'année dernière. Et pour l'année prochaine, nous avons programmé déjà une concert Oedipe raconté sur la compréhension de tout le monde, réalisé par le baryton roumain Ștefan Ignat, qui a chanté plusieurs fois le rôle. Et ainsi, nous espérons de pouvoir effectivement être convaincants pour que Oedipe revienne à Paris.
D'autant que c'est un livret d'Edmond Fleg français.
Oui, c'est tellement important. Mais vous savez, tout le monde parle de Béla Bartók, bien entendu, on le respecte, on l'aime, mais il faut penser à notre Georges Enesco qui n'était pas seulement compositeur, il était pianiste, il était violoniste, il était compositeur, il était professeur, il était vraiment multiple.
Vous, Viorica Cortez, quand on voit tous ces rôles que vous avez interprétés, tous ces metteurs en scène que vous avez connus, enfin, on ne va pas dire que c'est un âge d'or.
C'est une chance quand même.
Les auditeurs aussi, mais il y a des personnalités comme ça qui vous ont marqué encore plus que d'autres. Vous parliez de Streller. Bon. Il y a tellement de gens, oui, c'est peut-être, je vous cueille à froid.
Non, c'est que je ne les ai pas dans la tête maintenant, mais le fait que j'ai chanté, j'ai travaillé avec Streller à la Scala, c'est pas impressionnant. C'est que, c'était un titan de la mise en scène, mais il était très simple. C'était pas, et d'autres, j'ai eu d'autres
Ah bah, il y a eu Peter Ustinov aussi, d'autres.
Ah, Peter Ustinov, c'était drôle. On a fait la Don Quichotte de Massenet à l'Opéra de Paris et il a mis en scène, c'était extraordinaire.
Et puis dans les rôles, vous avez chanté Amneris, d'Aïda.
Oui, le grand répertoire des Femmes Fatales. Et après, petit à petit, j'ai fait du Strauss beaucoup parce que j'aimais beaucoup Strauss. Et la musique de Strauss, la musique russe que j'ai chantée en Amérique partout, la Kovanchina, la Dame des Piques que je faisais, la Comtesse et tout. Et avec le temps, vous savez, le répertoire de mezzo-soprano change. Et elle a la grande chance, la mezzo-soprano, comme la basse, d'avoir une vie artistique longue. Et avec cette occasion, son répertoire change. Tu ne peux plus faire la midinette et la grande dame à 50 ans, et tu passes à faire les mères, les grand-mères, les sorcières, les comtesses, les marquises, les reines.
Viérica Cortés, j'espère vraiment que j'aurai l'occasion de vous interviewer de manière plus approfondie. Là, je vous rencontre pour ces rencontres musicales internationales. Georges Enesco, vous êtes un peu la présidente. Et puis vous, Alina Pavalage, vous êtes la directrice artistique.
Oui, exactement. J'ai beaucoup joué les œuvres pour piano solo de Georges Enesco, que effectivement, ça fait partie des projets pour l'édition 2018. Et depuis plusieurs années, je me consacre à la musique de chambre. J'aime pas dire accompagnement de chanteurs. Et en 2009, toujours ensemble avec Viérica Cortés et Léontina Vadova et d'autres interprètes français, nous avons réalisé en deux concerts l'œuvre vocale intégrale de Georges Enesco, que j'espère un jour mettre en disque avec les lauréats du concours. C'est un rêve.
C'est un rêve pour nous aussi, parce que le patrimoine discographique, justement, il y aura des œuvres comme ce concerto, cette symphonie concertante de Dino Lipatti ou l'octuor de Enesco. C'est des œuvres qu'on aimerait bien écouter au disque et retrouver. Bon, il y aura ces concerts particulièrement du 16 au 19 octobre prochain, ce concours de chant. Mais il y a toutes ces œuvres qu'on aimerait retrouver en dehors de ce cercle pour la mémoire. En tout cas, Viérica Cortés, j'espère vous retrouver très bientôt pour un nouvel entretien.
Et moi aussi, ça me ferait un grand plaisir d'avoir une autre occasion de discuter avec vous, parce que vous n'êtes pas comme tous, comme tous les autres.
Ah bah, écoutez, je suis rouge,
ça
mais bon.
Ça me ferait vraiment plaisir.
Bah, je suis extrêmement touché. Et puis, Alina Pavalage, bah, j'espère aussi avoir le plaisir de vous retrouver. Et puis, on attend avec impatience toutes ces journées avec ce riche programme. Il y a tout un répertoire d'Enesco que vous ne connaissez pas encore, ou alors déjà vous avez exploré.
Moi, je connais l'intégralité du répertoire enessien, enfin, en étant roumaine, en ayant vécu, travaillé à la philharmonie de Iași en Roumanie. En fur et à mesure, dans la mesure des possibilités financières, effectivement, j'aimerais faire des partenariats avec les orchestres pour que l'œuvre symphonique, par exemple la troisième symphonie qui est extraordinaire, la quatrième et cinquième qui ont été achevées par un grand compositeur roumain, Pascal Bentoiu, parce que Enesco n'a pas eu le temps de les finir, sont des œuvres que je pense qui peuvent tenir la scène des concerts parisiens et français généralement. Avec beaucoup, beaucoup d'honneur.
Alina Pavalage, merci beaucoup d'avoir été mon invitée.
Merci à vous.
Et Viérica Cortés, merci infiniment d'avoir été mon invitée.
Voilà, moi aussi, je suis enchantée.